Vous vous souvenez probablement que nous vous avions déjà parlé du bois raméal fragmenté sur Radioéthique. Quelle évolution connaît ce BRF aujourd'hui en France et dans le monde? C'est la question que Jean Tonelli a posée à Jackie Dupetit, un spécialiste en bois raméal fragmenté.
Alors, que se passe-t-il sous les rameaux que l'on transforme en BRF en ce moment?
Bah écoutez, c'est la pleine saison d'hiver, donc malgré tout, beaucoup de vers de terre sont apparents et la vie redémarre, on sent que le printemps arrive.
C'est vrai, j'ai vu déjà dans mon jardin quelques bourgeons qui commençaient à grossir. On n'est pas un peu en avance, là?
On est un peu en avance, mais l'hiver aussi a été en avance, alors... Une espèce de décalage qu'on ne comprend pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas.
Oui. Puis cet hiver, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, sur la Côte d'Azur, il a beaucoup plu. Il a plu comme rarement il a plu depuis fort longtemps. Et j'ai l'impression que les végétaux en ont bien profité.
Oui, je crois, oui. C'est ce qu'on appelle le dérèglement.
Oui, voilà, hein, c'est plus le réchauffement climatique, maintenant c'est le dérèglement climatique. Alors, je lisais votre feuille des rameaux numéro 1, là, qui parlait du Togo, et donc d'une incursion de l'utilisation de BRF en Afrique. Ça me paraît intéressant comme démarche.
Ben oui, parce que, en fait, bizarrement, cette histoire de rameaux correspond à des pratiques relativement anciennes des paysans africains. Et la redécouverte s'est faite dans les années 95-96 avec le petit plus qui est la fragmentation, le fait de passer les rameaux dans un broyeur, dans une machine.
Ouais.
Mais traditionnellement, les gens allaient chercher des branches en forêt pour cultiver et s'étaient aperçus que les rendements étaient meilleurs et que surtout le problème de l'arrosage était nettement moins crucial.
D'accord. Donc c'est-à-dire qu'ils avaient les deux techniques de façon ancestrale, ils avaient la culture sur brûlis.
Oui.
Qui était donc la mise à feu des restes des cultures précédentes.
Oui.
Et en même temps aussi l'utilisation de rameaux pour protéger les cultures et moins arroser, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
Oui, mais en fait, je pense qu'on redécouvre petit à petit des méthodes ancestrales qui étaient fort judicieuses et qu'on a complètement balayé d'un revers de la main parce que tout d'un coup, on avait trouvé que l'apport de minéraux suffisait à notre bonheur.
Oui, tout à fait. Je pense que l'empirisme de nos anciens, ben, on a eu beaucoup de mal à l'expliquer et on tenait ça pour peut-être un peu de sorcellerie aussi.
Ouais.
Alors qu'en fait, ben, maintenant, on s'aperçoit que ce savoir empirique en fait, révèle une grande connaissance du vivant et que ben, malgré tous nos efforts et tous les pièges technologiques qu'on veut imposer à la nature, on n'est pas aussi fort que ça. Quoi.
Ouais. On a fait peut-être un peu trop de scientisme et de croyance au progrès qui était justement contre l'obscurantisme de ces observations anciennes que vous avez qualifiées de sorcellerie à un moment donné là, dans notre discussion.
Oui, tout à fait. Et le mot scientisme correspond bien à cette espèce de nouvelle religion qui a toujours raison, alors qu'en fait la vraie recherche fondamentale, la vraie science qui se pose des questions, bah, on la cherche et puis on la trouve pas trop. Les laboratoires maintenant sont plutôt des gens qui sont des ingénieurs plutôt que des chercheurs.
Ouais. Et puis un féodé a un retour sur investissement rapide.
Oui, ça j'osais pas le dire, mais je l'avais dit.
Donc, on revient à notre sujet du bois raméal fragmenté. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai un voisin agriculteur bio passionné et vraiment très rigoureux au niveau de ses observations. Et il me disait que cet été, il s'était amusé sur une parcelle de fraisier à cultiver comme il le faisait d'habitude sur un paillis en plastique. Et une autre parcelle, il avait mis du bois raméal fragmenté. Et il s'avère que la comparaison en termes de résultats est très élogieuse pour le bois raméal fragmenté.
Ouais.
Il m'a dit y a vraiment une différence très forte au niveau de la fructification, du mûrissement, de l'épanouissement des fraisiers par rapport au plastique. Et je pense que cette année, l'ensemble de sa culture sera géré de cette manière.
Voilà un beau résultat.
Donc, sinon, est-ce que y a des choses à dire à nos auditeurs qui s'y mettent à se boire raméal fragmenté de nouveau, par exemple? Bon, vous parlez de broyeur. C'est vrai que c'est important que ce bois soit broyé avant de le mettre au sol.
Oui. c'est vraiment la découverte qui a été faite à l'Université de Laval, en fait. Hein. Bon, comme toutes les découvertes un peu accidentelles, mais le fait de fragmenter ouvre des portes pour les micro-organismes, et notamment les champignons, qui mettent en place la fertilité du sol.
D'accord.
C'est vraiment quelque chose qui est très important.
Donc on est d'accord, plus on fragmente le bois, plus il a une superficie de contact avec les bestioles environnantes, que ce soit des champignons, des bactéries, et plus il va évoluer rapidement.
Tout à fait.
On est d'accord. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, moi, j'avais étudié il y a quelque temps que ramener au niveau du sol, c'est-à-dire en surface, des bois jeunes ne créaient pas d'asphyxie d'azote. En revanche, le fait de les mélanger à la terre risquait de faire une fin d'azote. Et là, j'ai le sentiment qu'au niveau de vos utilisations, vous préconisez parfois de l'enterrer un peu quand même, de l'incorporer.
Oui, moi je procède toujours à l'incorporation et ce qu'on appelle la fameuse fin d'azote. Qui en fait est un phénomène qui décrit et qui indique que le sol est en train de changer de fonctionnement, on l'évite complètement si on fait si on amène le BRF tôt en saison, c'est-à-dire à partir de septembre-octobre.
D'accord.
Et là, on n'aura pas du tout de fin d'azote parce que le système aura eu le temps de se mettre en place.
Oui, puis en plus, en septembre-octobre, les végétaux se nourrissent moins, on va dire, entre nous.
Oui, tout à fait.
Ils rentrent en dormance.
Que j'écris un peu dans mon bouquin, mais qui... sont l'objet de recherche et on sait maintenant que, ben, notamment lorsque les arbres vont perdre leurs feuilles, vont se séparer de leurs feuilles,
ouais.
Les feuilles redonnent environ 50 à 60% de leurs nutriments aux rameaux.
D'accord.
Et ces fameux rameaux, en fait, deviennent un peu les endroits de stockage qui vont permettre aux arbres, lorsque le printemps arrive, ben, de puiser dans ces ressources en premier. Mmh. C'est-à-dire que la priorité, c'est de redémarrer l'alimentation de l'arbre et c'est pas par le sol que ça se fait. Ça
d'accord.
Commence par puiser dans les rameaux tous les éléments nutritifs pour mettre ensuite en place le système racinaire.
D'accord.
Donc là aussi, c'est quelque chose qui est, en termes de fonctionnement, une espèce d'intelligence verte pour être
imagé. Oui, et qui a été le titre d'un bouquin d'ailleurs.
Oui.
Ouais. Et par rapport à l'utilisation du bois, bon, des fois on taille les branches, on a tendance à les laisser un peu en tas quelque part, et puis on se dit on attend d'en avoir un peu plus pour broyer tout ça. Est-ce que c'est une bonne idée ou il vaudrait mieux faire ça en flux continu, c'est-à-dire on taille et puis on broie tout de suite pour que le végétal soit broyé sans avoir séché au préalable?
Mais disons que si on est en épisode de sève dormante,
oui.
On appelle les bois dormants,
oui.
On n'aura pas ce problème, ce phénomène de dessèchement, parce que la sève ne circule pas et en fait elle est comme piégée dans les branches.
D'accord.
Et moi je conseille plutôt de faire son stock de branches,
oui.
Et puis de procéder à l'opération de fragmentation qui pour l'instant n'est pas très écologique, hein, faut le dire, parce qu'on
oui.
va faire de pétrole ou d'électricité dans le pire des cas, et que bah, il vaut mieux faire l'opération très vite et la faire en une seule fois.
D'accord, donc c'est ça, éviter de... Ok, donc vous êtes pour le stockage, puisque comme le bois est en dormance, il n'y a pas de souci de sève,
voilà.
D'accord. Bon. Et si, par exemple, on fait une taille de printemps, une taille en verre, à ce moment-là, là, il vaudrait peut-être mieux pas trop stocker longtemps.
Oui, alors, là, le problème qui va se poser, c'est que pour le jardin potager, où on met le BRF sur le sol, on l'incorpore, et plus tôt on fait ça en saison, le plus tôt on aura des résultats sans fin d'azote. Par contre, tout ce qui est taille de printemps pour les arbres fruitiers qui se passe en février-mars, là, moi, ce que je conseille, c'est plutôt de broyer et d'amener au pied des arbres qu'on a taillés.
D'accord.
Et là, on n'aura pas de fin d'azote parce que les arbres reconnaissent immédiatement la nourriture qu'on leur amène.
Ouais.
Et on est sur une autre problématique.
Oui, je comprends. C'est intéressant. Donc, on a en fait... on complète... La chute des feuilles.
Voilà.
Hein? C'est-à-dire que...
Les arbres, notamment les arbres malades, s'en portent beaucoup mieux. Il y a des choses qui sont assez spectaculaires. Hein.
Ben écoutez, je suis content d'avoir fait ce point avec vous concernant le BRF. Et c'est vrai que je pense que de plus en plus de gens s'y mettent. Et le broyeur... peut-être qu'on peut leur conseiller à ces gens qui ont envie de se mettre au BRF, bah, de l'acheter à plusieurs et de le partager, parce que c'est vrai qu'on l'utilise pas toute l'année.
Un peu, parce qu'on est sur un gros projet dont on parle dans cette fameuse feuille des rameaux,
oui.
que je peux envoyer à quiconque est intéressé. Hein. Mmh. On est sur un projet avec un lycée technique à Rodez, donc pas très loin de chez nous,
oui.
Pour faire un broyeur qui marcherait à traction animale ou humaine.
D'accord.
Et là, c'est évidemment à destination de l'Afrique. Et ce serait fabriqué en Afrique, mais ce serait d'une technologie très simple. Et pour en avoir parlé un peu autour de moi, beaucoup de gens en France seraient intéressés.
Moi, j'avais vu un broyeur chez un agriculteur passionné qui, son nom m'échappe en ce moment, mais son jardin s'appelle le Jardin du Marais, je crois. Et il a décidé depuis des années et des années de ne pas utiliser de pétrole chez lui. Donc il n'a aucun moteur technique, thermique. Et l'électricité qu'il utilise, c'est de l'électricité non pas nucléaire comme il l'appelle, mais soit éolienne, soit photovoltaïque. Et il a un broyeur à l'ancienne qui était en fait un grand volant avec une lame style rapachou. Qui servait à broyer la paille, en fait, je crois. Il utilise ça et il nous en a fait une petite démonstration. C'est fabuleux. C'est un engin qui est assez gros. Le volant a un diamètre assez imposant. Il doit être en fonte, donc il y a une inertie énorme liée au poids de la roue. Et un homme qui tourne ça de façon très, très simple arrive à des rendements extraordinaires.
Oui, tout à fait. C'est un peu l'idée de ce broyeur qui est en train de se concevoir.
Voilà, donc il y a trois lames en fait, hein, qui partent du centre de la roue vers l'extérieur. Il y a trois lames, un peu comme le symbole Peace and Love, là. Et ça tourne, et ça a une efficacité redoutable.